Alors, à partir de maintenant, je vous parle de Luc. Alors, d'abord, un joli Van der Weyden où Luc est en train de peindre Marie en train d'allaiter. C'est ravissant. Donc, on a tout dit de Luc, qu'il était médecin, ça vient des Colossiens, qu'il était peintre parce qu'il décrit bien les choses, etc. Bon. Moi, je vous présente Luc et donc l'Évangile en disant d'abord que Luc, c'est un. Ah, il faut que j'arrive à passer mon.
Comment enlever ça?
À ma diapo suivante.
Continuez, comment enlever ça?
Voilà. Si vous ne voyez pas très bien à droite, ce n'est pas grave. Luc, c'est un auteur et deux œuvres.
J'ai juste une idée.
On ne peut pas séparer l'évangile de sa suite, qui sont les Actes des apôtres. Alors, ça ne veut pas dire que cette année, vous allez plonger dans les Actes des apôtres. On n'a déjà pas beaucoup de temps pour travailler Luc, mais ça peut peut-être donner des idées pour les années suivantes. Voilà. Et moi, je pense que c'est Luc lui-même qui présente dans son prologue, dans ses prologues, le fait que son écrit est en deux tomes, même s'ils n'ont pas été écrits immédiatement dans la succession l'un de l'autre. Mais c'est vraiment en deux tomes parce qu'il y a vraiment un rappel des deux côtés. Et ce rappel, il est important parce qu'on considère toujours l'Évangile sous le même angle. Au début de l'Évangile, Luc, je vais y revenir, nous dit qu'il a enquêté auprès de témoins oculaires qui, depuis le commencement, ont appris des choses et qu'il a mis en ordre ce qu'il a appris de ces témoins oculaires depuis le commencement. Dans les Actes des apôtres, Luc dit que il a composé, j'ai composé un premier discours, un premier logos, c'est intéressant, au sujet de tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a la correspondance du mot commencement, hein, arché, commencer le verbe, on a l'affirmation que l'évangile, c'est un commencement. Voilà. L'évangile, ça c'est important. L'évangile, c'est un commencement qui va vers un accomplissement en route lui-même dans les actes des apôtres et donc dans le temps de l'Église et plus tard du monde. Ça marche?
Oui.
Voilà, ce lien est fort, toujours regarder l'évangile comme ce commencement en vue d'eux. Et en fait, une des grosses caractéristiques, à mon avis, de l'évangile de Luc par rapport aux autres, l'évangile de Luc, ça consiste vraiment à équiper le disciple pour sa mission ultérieure et pour la vie des communautés ultérieurement. C'est ça la visée, équiper le disciple. Alors, en même temps, je voudrais dire que Luc, l'auteur Luc, qui est quand même cet auteur assez impressionnant qui dit je, parce que même si le cas de Jean est un tout petit peu à part, dans les synoptiques, personne ne dit je sauf Luc. Il prend en charge son œuvre. Elle n'est peut-être pas totalement dans cet état-là d'un dénommé Luc. Enfin, il y a un auteur qui prend en charge son œuvre et qui dit moi, j'écris. Et il dit pareil dans les Actes des apôtres. Cet auteur, il est à la fois et indissociablement historien et théologien. Historien et théologien, pourquoi? Eh bien, les actes, les prologues, le prologue de l'Évangile le dit, vous le lirez attentivement, Luc donne les clés de son travail. Il dit comment il a travaillé, comment il a composé, comment il a écrit, et aussi le fait qu'il a une dimension théologique. Alors, l'histoire ancienne a des méthodes, évidemment, ce n'est pas les méthodes de l'histoire moderne, l'histoire contemporaine, mais elle a des méthodes. Et par exemple, Lucien de Samosate, qui est un peu plus tardif, deuxième, troisième siècle, va lister 10 obligations de l'historien. Or, Luc connaît déjà un certain nombre de ces obligations et il y répond. Il faut faire une enquête et il a enquêté. Il y a des sources qui sont des sources écrites, puisque plusieurs déjà ont entrepris de raconter. Et il y a des sources qui sont des sources orales, ceux qui sont devenus témoins oculaires et qui ont parlé témoins oculaires depuis le commencement. Luc a enquêté auprès de tous ces gens-là avant de faire lui-même, il le dit, un récit, composer un récit dont l'organisation est clairement, d'après ce qu'il dit, à la fois logique et chronologique. Voilà. Organisation des événements, logique et chronologique. Il y a aussi un destinataire clair du travail, le cher Théophile. Alors, la première, dans cette perspective-là, d'un Luc historien, rien n'empêche de penser que Théophile est un riche chrétien, commanditaire du travail de Luc. On le retrouve au début des Actes des Apôtres. Très cher Théophile. En gros, Luc a un mécène, Théophile, qui lui a commandé l'évangile après les Actes. Ça relève de son boulot d'historien. Si on regarde maintenant ce que je viens de dire du point de vue de l'historien ou de l'exégète du XXe siècle ou du XXIe siècle, il s'aperçoit que tout cela est assez juste, puisque Luc a bien comme source l'évangile de Marc, clairement, source écrite, dont il suit d'ailleurs le déroulé de façon assez précise. Il a comme source ce qu'on a appelé la source Q, la fameuse, puisque en allemand c'est Quelle, hein, donc c'est l'initiale du mot Q allemand, la Quelle. Cette source Q, on ne l'a pas, c'est une reconstitution à partir des quelques 220 ou 230 versets communs à Matthieu et à Luc, que Marc n'a pas, d'un écrit que Luc et Marc et Matthieu ont eu certainement en grec, et dont on trouve aussi des correspondants très forts dans l'évangile apocryphe de Thomas. Cet écrit ancien liste des paroles de Jésus, on dit parfois la source des logias, des enseignements avec quelques récits assez peu nombreux, le baptême de Jésus, Jean-Baptiste, une ou deux paraboles, mais très peu, et pas de récit de la Passion. Donc, probablement, un listing qui existait, qui circulait, et probablement d'abord en araméen, avant, et peut-être, ou en même temps en grec, en tout cas, eux l'ont en grec, des enseignements de Jésus qui sont communs à Matthieu et à Luc. Luc les a dans un ordre différent de Matthieu. Généralement, on considère que c'est Luc qui suit l'ordre le plus originel, pour autant qu'on peut l'atteindre. Et puis, Luc a composé, organisation logique, chronologique et recherche de sources. Il a des sources propres et il a des choses qu'il a certainement écrites lui-même, des paraboles, un certain nombre de récits qui lui sont propres. Donc, on considère aujourd'hui que l'évangile de Luc est formé à partir de Marc et de la source Q, comme Matthieu, plus d'un bien propre à Luc, et qu'il l'a écrit vers 80-85. Ça va? En même temps, Luc est théologien. Ce n'est pas exclu dans l'histoire ancienne, parce qu'un des préceptes, une des maximes qui sont demandées et demandées par Lucien de Samosate, c'est qu'au fond, l'historien a un but. L'historien a un but. Et il a au fond une explication de l'histoire. Un des buts, c'est d'être au plus près de la réalité. Mais l'historien peut aussi donner, et Thucydide par exemple l'a fait, sa philosophie de l'histoire. Thucydide, il montre que l'histoire est menée par les ambitions d'une puissance qui commence à avoir des dimensions d'empire, Athènes, et que ça va conduire par une espèce de nécessité interne à des guerres, et puis ensuite à une décadence. Voilà. Quelqu'un comme Flavius Joseph considère dans son histoire juive et ses antiquités juives que l'histoire est menée par la providence de Dieu. Luc clairement a un but, c'est montrer qu'il y a dans l'histoire le dessein de Dieu qui s'accomplit, voilà, qui commence avec l'évangile, ou bien au-delà, commence avec les écritures juives, et puis ça continue dans un nouveau commencement avec l'Évangile, continue à s'accomplir dans les Actes des Apôtres. Il y a un dessein de Dieu dans l'histoire. Du coup, son destinataire est double. C'est à la fois peut-être le commanditaire Théophile, mais c'est probablement aussi quiconque aime Dieu, puisque le mot est transparent, hein, l'ami de Dieu, qu'il aime Dieu, qu'il soit aimé de Dieu, les deux sont possibles. Et la visée consiste à ancrer et conforter le savoir déjà du chrétien Théophile. Parce que Théophile est baptisé et a été catéchisé. Il s'agit d'assurer, de confirmer ce que tu as entendu, dit le texte, en écho. Et le verbe entendre en écho, c'est la catéchèse, dans lequel il y a le mot écho. Donc Théophile a déjà reçu des premiers échos de la parole. Il s'agit donc maintenant qu'il ancre et confirme sa foi, ce qui est souvent le cas quand on se plonge dans un évangile. On a déjà une petite idée, on est déjà un peu chrétien et on vient essayer de conforter ce qu'on sait. Voilà. Alors, maintenant, j'ouvre l'évangile de Luc et je vais passer un petit moment. Vous voyez
Oui.
Le magnifique détail de la nativité de Giotto, de la fresque de la nativité de Giotto. Je vais passer un grand moment sur l'évangile de l'enfance parce que, même si ça vous attriste, je ne vous propose pas dans les semaines qui vont venir de l'étudier, faute de temps. En 5 semaines, on ne peut pas tout faire. Donc, on étudiera une autre fois les évangiles de l'enfance, vous le ferez vous-même. Je souligne la chose suivante. Paul, bien antérieur à Luc, et dans la mouvance duquel Luc se situe à la seconde, peut-être, oui, à la seconde génération, Paul écrit en 54 dans les Galates, « Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. » Voilà, c'est l'évangile de l'enfance selon Paul. Un homme né d'une femme juif. Marc et Jean, dans leurs évangiles, Marc vers 70, Jean beaucoup plus tard, n'en disent absolument rien. Nous n'avons d'évangile d'histoire de l'enfance de Jésus que chez Matthieu et Luc. Or, vous le savez déjà, il y a des éléments communs qui font quand même une base commune fondamentale. Et je les énumère. On y apprend que Jésus est né sous Hérode le Grand. Hérode le Grand étant mort en 4 avant Jésus-Christ, il apparaît que Jésus est né en 6 ou 7 avant Jésus-Christ. Voilà. C'est paradoxal. À l'époque, on ne comptait pas à partir de la naissance de Jésus, on comptait à partir de la fondation de Rome, ab urbe condita. Et lorsque, avec un moine du 5e siècle, Denis le Petit, on a essayé de recommencer l'histoire l'année de la naissance de Jésus, le moine il s'est trompé de quelques années. Avec les moyens de l'époque, c'était déjà assez admirable. Donc ne vous inquiétez pas, Jésus est né avant Jésus-Christ. Il était le fils putatif de Joseph, connu comme descendant, il y avait plusieurs familles, descendant de David, mais David comme c'est 1000 ans avant, ça s'est perdu dans les sables de l'histoire, né d'une jeune fille, Marie, promise à Joseph, à Bethléem de Judée, mais ayant vécu toute son enfance à Nazareth en Galilée. Ça, c'est la base. À partir de là, tout diverge. Tout diverge. Je ne vous l'ai pas écrit, mais vous le savez. L'annonce chez Matthieu est une annonce à Joseph, et Marie apparaît très peu. Quelques lignes, et au fond, c'est Joseph qui va prendre en charge, comme dit sans arrêt l'évangile de Luc, la mère et l'enfant. Donc au fond, c'est une annonciation à Joseph, tandis que chez Luc, c'est Marie qui occupe largement toute la place. Voilà, c'est l'annonce à Marie. Chez Matthieu, l'enfant va partir en Égypte, etc. Chez Luc, on aura simplement, et je vais m'y arrêter une seconde, l'annonce par le vieillard Siméon à Marie, ou le Siméon, il n'est peut-être pas vieux, à Marie, un glaive de douleur te transpercera. En tout cas, il y a quelque chose de dramatique autour de cette naissance sous des formes très diverses. Chez Luc, ce sont les bergers, les exclus du système religieux de l'époque, les impurs, qui viennent, qui apprennent la nouvelle par les voix des anges et qui viennent reconnaître leur sauveur à la crèche. Chez Matthieu, ce sont des sages venus d'Orient, des mages et des sages venus d'Orient qui, passant par chez le roi Hérode, viennent apporter des cadeaux somptueux. Voilà. Etc., etc. Donc, tout diverge. Et donc, je vais m'intéresser essentiellement aux éléments propres à Luc pour essayer de montrer qu'il s'agit évidemment d'un récit à forte dimension christologique. Alors, insistance de Luc, j'en ai 4. La continuité, l'humanité de Jésus et son mystère, la divinité et son mystère, le chemin qui passe par la souffrance et la mort. La continuité, très marquée chez Matthieu par « comme il est écrit », « selon qu'il est écrit ». Chez Luc, c'est le récit qui qui fait la continuité, puisqu'on a d'abord, avant la naissance de Jésus et en parallèle, un parallèle établi entre Jean-Baptiste et Jésus, avec une annonce aux parents de Jean-Baptiste, une annonce à Jésus, etc. À Marie, aux parents de Jésus, etc. La naissance de l'un, la naissance de l'autre, le lancement de l'un dans le ministère et le lancement de l'autre. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste va faire un lien étroit avec ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, puisqu'on a le couple Élisabeth et Zacharie qui va reprendre dans les mots mêmes les caractéristiques du couple âgé et stérile de l'Écriture, Sarah et Abraham, mais aussi Rachel et Jacob, c'est-à-dire qu'au fond, Dieu intervient pour montrer sa fécondité dans la vieillesse et dans la stérilité. Luc rattache donc fortement le nouveau récit à l'ancien, mais dans le nouveau récit, lorsqu'il s'agira de l'annonce à Marie de la naissance de Jésus, on aura le même signe de la fécondité créatrice de Dieu, mais cette fois-ci dans la jeunesse virginale et non plus dans l'âge, le vieillage. Qu'un autrement. Continuité aussi, puisque dans le temple de Jérusalem, Siméon et Anne, deux anciens qui attendent le salut d'Israël, vont reconnaître Jésus comme la gloire d'Israël. Voilà, mes yeux ont vu le salut que Dieu avait promis à son peuple. En même temps, il va être annoncé comme nouveauté, lumière pour la révélation des nations. Ceci pour dire que chez Luc, de façon très claire, le nouveau germe dans le sillon de l'ancien, et qu'à la différence de Matthieu, qui le fait en disant « comme il est écrit » ou en faisant de Jésus un nouveau Moïse, Luc raconte l'histoire, surtout dans ses évangiles de l'enfance, en utilisant les figures, les expressions et le vocabulaire grec même de la Bible grecque, la Septante. Autrement dit, il prend les figures, les expressions, le vocabulaire des Septantes, et avec cet ancien, il fait du nouveau. Ça va? Voilà. Il ancre comme ça, de façon forte, la naissance et la vie de Jésus dans les annonces de l'écriture juive. Deuxième caractéristique des évangiles de l'enfance, l'humanité de Jésus et son mystère, Luc très fortement ancre Jésus dans l'histoire universelle. Et ça, il tient à cœur, il continuera dans les Actes des Apôtres en faisant dire à un des procurateurs romains, cette histoire ne s'est pas passée dans un coin perdu, ça n'est pas arrivé dans un trou. Ça doit être inscrit dans l'histoire universelle, ce qui n'a pas été le cas tout à fait, mais enfin. Donc, Jésus naît sous Hérode le Grand, ça, Matthieu le dit aussi, et ensuite, il naît au moment où l'empereur César Auguste, où ce Auguste est empereur, et où Quirinus, gouverneur de Judée, fait un recensement. Bon, les historiens actuels considèrent que Luc s'est peut-être un peu perdu dans les recensements du gouverneur Quirinus, parce qu'il y en a eu un important en 6 après Jésus-Christ, mais il y en a eu plusieurs dans le passé, avant la date que nous appelons l'année 1, et donc il y a là quelque chose probablement d'assez juste, même si ce recensement est local. Au moment où Jésus va commencer sa mission, on a une espèce d'ancrage solennel dans l'histoire, la 15e année de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de Judée, qu'Hérode Antipas était tétrarque de Galilée, Philippe, etc., bon, Léonidas, etc., que Anne et Caïphe étant grands prêtres, voilà, c'est ancré dans l'histoire. Plus précisément, Luc va aussi ancrer Jésus dans le judaïsme de son temps et dans une famille. Et donc, il va construire la famille juive de Jésus en faisant de Jean-Baptiste son cousin. Voilà. Ce que par ailleurs, on ne sait pas plus que ça. On sait clairement, et là les quatre évangiles le manifestent, évangile de Jean surtout, mais tous, que Jésus est apparu dans la mouvance du baptiste, qu'il a fait partie d'abord des groupes baptistes et probablement de Jean le Baptiste, et puis s'en est séparé. Mais Luc en fait le cousin. On s'ancre dans une famille juive de Haute-Galilée, des lieux dont on sait d'ailleurs qu'ils étaient restés très, très pratiquants, très liés à un judaïsme familial traditionnel. Il ancre aussi, on pourrait dire, de façon très, très sensible, très remarquable, dans le ventre des femmes, puisqu'à cette rencontre d'Élisabeth et Marie, où les deux enfants, dans le ventre de leur mère, se reconnaissent. Et puis, il ancre dans une espèce de généalogie qui rassemble les deux ancrages que je viens de dire, celui plus universel et celui plus familial, puisqu'il s'agit d'une généalogie qui va partir de Jésus et remonter jusqu'à Adam, fils de Dieu. Là encore, le parallèle avec Matthieu est éclairant. Les deux généalogies ne coïncident pas. Il y a quelques noms, hein. Il y a Joseph, il y a David, il y a Abraham. Il y a... voilà. Mais les deux généalogies ne coïncident pas du tout. Matthieu a 44 noms, ou 40... 3 fois 14, ça fait combien 3 fois 14? 42 noms. Trois fois David, et ça descend d'Abraham à Jésus. Luc a 77 noms qui remontent jusqu'à fils d'Adam, fils de Dieu. Par Adam, Jésus est fils d'humanité. Par Adam déjà, il est fils de Dieu, et l'Évangile va nous apprendre qu'il est fils de Dieu aussi autrement, puisqu'il est dit dans cette généalogie, il était, pensait-on, fils de Joseph, ce qui conduit au mystère de sa divinité. L'annonce à Marie est clairement un équipement christologique du lecteur, voilà. Avec une titulature messianique qui est d'abord, est l'accomplissement de la promesse de Dieu à David par Nathan dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7. Voilà, il sera appelé grand et fils du Très-Haut, il règnera sur le trône de David son père, son règne n'aura pas de fin, ça reprend de Samuel 7. Mais cette même titulature va être élargie en faisant de Jésus celui qui est né de l'Esprit. L'Esprit viendra sur toi, est-il dit à Marie, te couvrira de son ombre. Ce qui est lourd de rappel biblique, parce que l'Esprit qui vient couvrir de son ombre, c'est d'abord l'Esprit créateur, qui dans la Genèse souffle sur les eaux. C'est surtout l'Esprit qui, à la fin de l'Exode, quand le sanctuaire idéal est construit dans le désert, vient dans la nuée couvrir le sanctuaire de son ombre. Et le texte dit, lorsque la nuée couvre le sanctuaire, alors Dieu est présent au milieu de son peuple. C'est donc une façon biblique de dire, l'Esprit Saint viendra te couvrir de son ombre, qu'en elle, Dieu est présent au milieu de son peuple. Ce qui est dit aussi dans l'affirmation, il sera appelé fils de Dieu, au moins dans la compréhension chrétienne de cette affirmation, ce qui est dit aussi au berger, il vous est né aujourd'hui un sauveur, un Christ Seigneur. Donc le lecteur, finalement, sait déjà quelque chose de très fort de cette double identité de Jésus, et il va apprendre aussi que son chemin, qui est un chemin glorieux, un salut, une lumière pour les nations, une gloire pour Israël, est aussi un chemin qui passe par le rejet, la souffrance et la mort, puisque Siméon dit qu'il sera objet de chute et de relèvement pour beaucoup en Israël, et à Marie, et toi, un glaive te transpercera. Il est dit à deux reprises. Elle retenait tout cela dans son cœur. Et moi, je considère que c'est une façon pour Luc de nous dire qu'entre l'ancien et le nouveau, entre l'écriture juive et le nouveau dire chrétien, il y a une relation forte, une continuité forte, mais qu'elle est blessée. Mais qu'elle est blessée et elle va le rester dans l'histoire. Voilà. Ayant dit ça un peu trop longuement, je quitte les évangiles de l'enfance et je m'arrête un peu sur le chapitre 4 que vous travaillerez et sur lequel j'ai quand même m'arrêté un peu parce que c'est un véritable programme pour le reste de l'évangile avec tournant autour de l'idée qu'est-ce que c'est qu'être fils de Dieu. Et cela est dit sous deux formes, les deux parties du chapitre. le combat avec Satan et deuxièmement, le rejet par les siens. Le combat avec Satan qu'on appelle souvent le récit des tentations. Je polémique un peu, mais j'aime pas ce mot. Je pense qu'il est faux. Et on l'a refourré dans la nouvelle traduction de Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Le problème, il ne portait pas sur le verbe, il portait sur la traduction du mot. Parce que je crois que dans ces textes, il ne s'agit pas de la tentation, mais bien de l'épreuve. Et le récit, le combat de Jésus avec Satan, le dit très bien, puisque la dernière réponse de Jésus s'appuie sur Deutéronome 6, 16, « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. » C'est-à-dire que ça renvoie à la scène du Deutéronome, plus clairement d'Exode 17, qui est la scène de Massa Meriba, où le peuple dans le désert va à un lieu qui s'appelle épreuve et querelle, en hébreu comme en grec. Voilà, un lieu qui s'appelle épreuve et querelle, et en ce lieu, le peuple met Dieu au défi. Il doute de Dieu et demande à Dieu d'intervenir pour lui donner à boire et à manger, parce que sinon, il valait mieux de nous laisser dans le pays d'Égypte, au moins il y avait des oignons et de la soupe. Voilà. Et donc, ce n'est pas la peine de nous avoir fait venir dans ce désert pour nous laisser mourir de faim et de soif. Bon, ça, c'est l'anecdote. Mais l'important, c'est que ce lieu, Massa, le lieu d'épreuve, c'est bien le lieu où on refuse de faire confiance en Dieu. On refuse et on exige des preuves. Or, Jésus va dire au diable qu'être fils de Dieu, c'est justement renoncer aux preuves. C'est renoncer, et il le fera sans arrêt, à exiger de lui l'avoir, le pouvoir, le savoir. C'est se tenir à l'écoute de sa parole. On pourrait peut-être ajouter, c'est renoncer à manipuler l'écriture comme le diable le fait. Parce que le diable aussi, il cite l'écriture, mais il la manipule. Si tu es fils de Dieu, tu mets la main dessus. Voilà. Donc, Jésus répond, adorer de Dieu seul et se tenir à l'écoute de sa parole sans vouloir s'en emparer. Le récit se termine par le fait que le diable, ayant épuisé, il a perdu dans le combat et en essayant de mettre Jésus à l'épreuve, il s'éloigne jusqu'au moment favorable. On retrouvera ce moment favorable au chapitre 22, puisque Judas va être celui en qui Satan entre et cherchera le moment favorable pour livrer Jésus. Deuxième partie du même chapitre, et ça continue. Être fils de Dieu, c'est au risque d'être rejeté par les siens. De la même façon, ici, on va partir de l'écriture. Vous le travaillerez en détail, vous verrez que l'écriture est au centre. Tout est en anneau dans ce texte. L'écriture au centre, Jésus lit le livre, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et de la même façon, en anneau, on voit les yeux se fixer sur lui. Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit à vos oreilles. C'est donc à travers le livre qu'il se désigne, pas autrement, en laissant au fond le livre le désigner. Mais aussitôt, il va être rejeté par les siens, avec la volonté de quoi? Eh bien, comme le proposait le diable, de mettre la main sur lui. Fais ce que tu as fait à Capharnaüm. Dans le récit de Luc, il n'a rien fait du tout. Hein. Il ira après. Ça n'a pas d'importance. Ce que tu as fait à Capharnaüm, fais-le aussi pour nous dans ta patrie. Refus de Jésus, nul n'est prophète en son pays. À nouveau, il se tourne vers l'Écriture et rappelle le fait que les prophètes Élie et Élisée ont porté secours à des païens, à des gens qui n'étaient pas de leur pays. La veuve de Sarepta, en dehors du pays judéen, Naaman le Syrien, évidemment l'ennemi. Voilà. Donc, porte secours à d'autres. Et par là, Luc annonce déjà les actes des apôtres. Il annonce le passage de l'évangile aux païens. Mais il l'annonce dans la continuité de l'écriture ancienne. Or, ce passage de l'évangile aux païens ne s'accomplira pas dans l'évangile de Luc. Très clairement, il retravaille le texte de Marc pour éviter que Jésus aille trop chez les païens. Marc et Matthieu ont deux récits de partage des pains, de multiplication des pains. Un en pays juif, avec 12 corbeilles, un en pays païen, avec 7 corbeilles, les 7 diacres, etc. Luc en supprime un, il supprime le second. Le doublé est inutile, Jésus ne sort guère du pays juif. Luc supprime le merveilleux récit de la femme cananéenne ou syrophénicienne pour Marc, qui convertit Jésus de force à s'occuper de sa fille, avec l'histoire des petits chiens, elle s'humilie, mais elle lui force la main. Voilà. Elle doit s'occuper aussi des païens. Luc le supprime pourquoi? Parce que dans l'économie de son œuvre, dans les actes des apôtres, et après un gros travail de l'Esprit-Saint et bien des difficultés soulevées à Jérusalem, que l'Évangile sera annoncé aux païens. Donc ce texte annonce déjà les actes des apôtres. Il annonce au passage que ça se fera à travers la passion et la résurrection de Jésus, puisque tous, remplis de fureur, voulaient le précipiter du haut de l'escarpement, même s'il n'y a pas d'escarpement à Nazareth. Hein. Cherchez pas, il n'y en a pas. Mais lui, passant au milieu d'eux, faisait route, et on va retrouver ce faire route dans toute la montée de Jésus à Jérusalem. Voilà. Donc une scène programmatique qui annonce en fait le projet de l'Évangile proclamé jusqu'au-delà du pays juif, mais ce sera dans les actes des apôtres. Et qui annonce évidemment le fait que celui qui n'a pas voulu mettre la main sur la puissance de Dieu sera rejeté par les siens, tué, etc. et ressuscité. À partir de là, je vous propose de diviser en trois l'évangile de Luc. La mission en Galilée, 5 à 9. On verra que l'articulation est un peu difficile. La montée à Jérusalem, 9, 51 à 21. La passion, 22, 23, évidemment 24. Les récits de résurrection, les récits d'apparition du ressuscité. Alors, la mission en Galilée, les chapitres 5 à 9. Je ne vais pas m'amuser à faire de plan de cette partie. C'est toujours compliqué les plans chez Luc parce qu'il colle des petits bouts ensemble avec toujours cette alternance. On a la même chez Marc, d'actes de puissance ou miracles, d'enseignement et quelques paraboles. Ici, je m'arrête un instant. Est-ce qu'il y a des cris et des hurlements? Je vais trop vite?
Non.
Vous ne prenez pas de notes, hein? Vous aurez vous avez la conférence en entier par écrit. Bon, ça va, je peux y aller?
Oui. 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 Il y a des micros qui ne sont pas éteints. Catherine Guilhem, elle n'a pas éteint son micro. Alors, on est ravis de la voir, mais on l'entend tousser.
Oh, c'est pas grave.
Bon, c'est pas grave.
Okay. On lui souhaite bonne santé.
Bonne santé.
La mission en Galilée, c'est un moment joyeux. Il y a une espèce dont on a parlé du printemps de Galilée. Il y a une espèce de moment de réussite où les foules sont dans l'admiration, chantent la gloire de Dieu. Il y a quelque chose comme une espérance extraordinaire et une première vision du règne qui se met en place là. Alors, les foules chantent la gloire de Dieu et il va y avoir un enseignement de Jésus qui est tout de suite après, au chapitre 6, qui est malgré tout extrêmement rude et radical, au point que effectivement, on voit bien que ça va mal tourner à un moment ou à un autre. Cet enseignement de Jésus, ça correspond au très long discours sur la montagne de Matthieu, chapitres 6 et 7. Et c'est beaucoup plus court chez Luc, c'est le discours dans la plaine. Donc, on n'a pas le discours dans la montagne, on a le discours dans la plaine, qui s'adresse plutôt aux disciples que plus largement au peuple, et qui, par rapport à celui de Matthieu, est finalement beaucoup plus ramassé et radical. Je souligne rapidement, vous regarderez la différence des béatitudes. Il y a un certain nombre de béatitudes chez Luc, il y en a moins chez Matthieu. Non, un certain nombre de béatitudes chez Matthieu, il y en a moins chez Luc. Il y en a 5 chez Luc, 7 ou 8, 9 chez Matthieu. Luc est peut-être plus proche d'un original, s'il y en a un. Et il y a chez Luc, après les béatitudes, pas des malétitudes, mais des malheurs. Malheur à vous les riches. qui va être une des thématiques de l'évangile, Luc s'adresse à des communautés chrétiennes où la fracture sociale est forte. Donc, malheur à vous les riches, et bienheureux les pauvres, mais pas les pauvres en esprit, les pauvres tout court. On va retrouver cette radicalité dans le discours qui suit, avec toute une quelques versets, dizaines de versets, même pas, sur l'amour des ennemis. Alors, j'insiste un peu sur l'amour des ennemis parce que on a souvent dit l'amour des ennemis, c'est la pointe du message de Jésus, c'est l'originalité du message évangélique. Non, pas du tout, pas du tout. Ça existe déjà en monde juif. Si vous lisez le livre des Proverbes, je ne sais plus exactement, Proverbe 27, vous verrez qu'il est écrit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. » Et Paul le cite en Romains 12, après un passage d'exhortation qui est très proche de ce que Luc écrit là, et donc Luc s'est peut-être inspiré. Le discours de Jésus est bien sur l'amour des ennemis qui existe déjà en monde juif, mais il est radical. Il est radical par les renversements. Bénissez ceux qui vous haïssent. Je vais essayer de vous en donner des petits exemples. Vous le savez par cœur, non ?
Oui.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous êtes calomnie. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, à qui prend ton bien, ne réclame pas. Vous allez me dire, ce n'est pas vivable. Et de fait, il y a là quelque chose de pas vivable. Ce qui est encore plus difficile, c'est que Luc le justifie, ou le Jésus de Luc le justifie, et le justifie autrement que chez Matthieu. Chez Matthieu, vous avez, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense y a-t-il pour vous ? Quelle récompense ? Chez Luc, c'est différent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous ne faites rien de différent de ce qui se passe chez les païens et chez les pharisiens. Parce que eux aussi ont su installer un régime d'équivalence, de reconnaissance, et après tout, la justice humaine fait ça, elle cherche des équivalences et ne sait pas si mal. Or là, on n'est plus dans l'équivalence. On n'est plus dans l'équivalence. La question, c'est si vous faites ça, si vous ne sortez pas de l'équivalence, si vous ne sortez pas de la reconnaissance, si vous ne sortez pas du donnant-donnant, quelle gratuité y a-t-il pour vous ? Le mot employé, c'est charis, c'est la grâce. C'est au fond le don de Dieu. Quelle gratuité y a-t-il pour vous ? Et c'est expliqué en disant, mais si vous faites ça, vous serez fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les méchants et pour les ingrats, pour ceux qui n'ont aucune gratuité, aucune reconnaissance. Il s'agit donc de dépasser quelque régime que ce soit de justice, d'équivalence ou de reconnaissance pour dire agissez sans retour, sans espoir de retour, gratuitement comme Dieu lui-même le fait. Vous allez dire la barre est haute. Elle est si haute que Luc prend aussi un autre biais. Il va reprendre la règle d'or qui existe dans, en gros, toutes les civilisations connues, hein, qui est « ne fais pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas, que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Les Romains et les Grecs disent que c'est la base des relations sociales. « Tu ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Les évangiles le retournent et la règle devient positive ici. « Faites à autrui tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous ». Moi, je veux qu'on fasse tout pour moi. Je veux qu'on m'aime, qu'on me reconnaisse, qu'on me soigne, qu'on s'occupe de moi, etc. etc. On est là dans de l'excès incroyable. Faites tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Autrui exige infiniment, on arrive à ce que dira au XXe siècle Lévinas. Et l'idée, c'est toujours parce que vous ferez comme votre Père qui est dans les cieux. Comme votre Père est miséricordieux, c'est un « comme » qu'on retrouve aussi dans notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons et qui est très présent ici. Question, qui peut vivre ça? Il y a un indice, il y a un indice dans le texte. Parce que, en disant qu'on doit faire comme Dieu, Luc dit, vous serez fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les pécheurs. Or, qui est fils du Très-Haut? Eh bien, on se rappelle de l'évangile de l'enfance de l'annonce à Marie, il sera appelé fils du Très-Haut. Donc, il y en a un qui va le vivre, ça, les béatitudes. Et l'idée, c'est de dire aux disciples, voilà, voilà celui que vous devez suivre. À distance peut-être, mais que vous devez suivre quand même. Ce qui va être dit ensuite est toujours en avance sur ce qui va se passer. Parce que Jésus va aussitôt après relever, ressusciter le fils unique de la veuve de Naïm. Vous chercherez dans Luc, tous les fils, tous les enfants malades que Jésus relève ou sauve sont des enfants uniques. Une espèce d'anticipation de sa propre mort et résurrection. Et les foules vont donc dire et proclamer, un grand prophète s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple, le règne arrive. Mais Jésus ajoute aussitôt après, et heureux celui que je ne scandaliserai pas. Et donc toujours cette idée que cet excès à quelque chose d'insupportable, ce qu'il fait c'est trop dur à accepter et qu'il va scandaliser. Ça nous conduit, si vous avez encore un peu de courage, à la deuxième partie de l'évangile, la montée à Jérusalem, qu'on appelle souvent la grande section lucanienne. Pourquoi la grande section lucanienne? Parce que ce que Marc racontait en deux chapitres, 10 et 11, Luc le raconte en 10 ou 11 chapitres. C'est très long. 9, 51 à 21, avec un tournant qui est clairement en 9,51, mais qui est préparé avant par un récit, celui de la transfiguration. Dans l'évangile de Marc, le tournant, confession de Pierre à Césarée. Pierre qui dit à Jésus, tu es le Christ. C'est là que l'évangile tourne. Et ensuite, Jésus lui ayant annoncé qu'il devrait souffrir, être rejeté, il y a cette parole très dure à Pierre, arrière Satan. Luc a aussi la confession de Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu, mais il supprime la dure parole à Pierre. Il renvoie ça au dernier moment, lors du dernier repas de Jésus. Donc il supprime cette dure parole à Pierre et il met l'accent sur le moment de la transfiguration qui va être le véritable tournant de l'évangile. Comme chez Matthieu et Marc, Jésus apparaît dans la gloire, ayant changé de forme, métamorphosé, diront Matthieu et Marc, entouré de Moïse et d'Élie. Mais la différence ici, c'est que Moïse et Élie, qui s'entretiennent entre eux, annonçaient, parlaient de son exode qui devait s'accomplir à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que cet exode? Pourquoi est-ce que Jésus doit accomplir un exode? Je vous rappelle qu'un exode, c'est le passage de la servitude en Égypte, à la vie, à la liberté et à la marche vers la terre promise. Donc, il est annoncé là, dans la continuité de ce qu'a vécu Israël à travers les siècles, que Jésus va vivre un exode. Et en même temps, cet exode est bien celui du Fils élu. Mais ce sont aussi des titres qui avaient été donnés par Dieu à son peuple. Cet exode, il va se présenter dès le début de la grande montée en 9,51 sous forme solennelle. Sous forme solennelle, et dans l'évangile de Luc, il y a comme ça des espèces de commencements où on a quelque chose de très solennel, je vous l'ai dit, pour le ministère de Jésus. Ici, on a un nouveau commencement. Lorsque furent accomplis les jours de son enlèvement, Jésus durcit son visage pour monter vers Jérusalem. Voilà. Un nouveau début dans l'évangile. Lorsque furent accomplis, donc on a un premier accomplissement qui se met en route, et c'est l'accomplissement des jours de son enlèvement. Alors, je m'arrête sur ce mot. Le mot enlèvement, il fait clairement allusion à la montée au ciel du prophète Élie en 2 rois 2. Le prophète Élie, dont vous savez qu'il n'est pas mort, la tradition juive le dit, Élie n'est pas mort, il a été emporté dans un tourbillon au ciel et Élisée courait derrière pour attraper le manteau d'Élie en criant « Élie, mon père, mon père voilà. ». Élie est monté au ciel et il n'est pas mort, il reviendra. Or, le mot employé, c'est « il a été enlevé ». Dans les Actes des Apôtres, dans le récit de l'ascension de Jésus, en Actes 1, 11, Luc fera dire aux anges qui viennent parler aux disciples qui attendent le regard levé par le ciel, il a été enlevé dans le ciel. Même vocabulaire. Donc, l'enlèvement de Jésus ici, c'est à la fois sa montée à Jérusalem, parce qu'on va voir le vocabulaire de la montée, son élévation sur la croix et son enlèvement dans la gloire et dans le ciel. On anticipe déjà le début des Actes des Apôtres, l'ascension de Jésus. Or, cet enlèvement, il va donc commencer par un exode, et un exode difficile, puisqu'il est dit que Jésus durcit son visage pour monter à Jérusalem. Et là, deuxième allusion aux Écritures, vous voyez à quel point le texte de Luc est nourri, lié à l'Ancien Testament. Il durcit son visage, mais c'est le texte du serviteur souffrant. Du troisième chant du serviteur d'Ésaïe, chapitre 50, où il est dit que ce serviteur, que Dieu a choisi, élu, mais qui est rejeté par le peuple, qui reçoit des gifles, dont le dos est griffé, le serviteur dit « J'ai rendu mon visage dur comme pierre parce que je sais que je ne serai pas confondu et que Dieu me soutiendra. » C'est tout ça qu'il y a derrière, il durcit son visage. C'est déjà la passion et c'est déjà l'assurance que Jésus, grâce à Dieu, la traversera. Ensuite, je vais traverser moi à toute allure les grandes étapes de cette montée. C'est difficile d'en faire le plan, car tout le monde s'y perd. Il y a plusieurs propositions. Je vous en fais une. En balisant le chemin, ça fait des parties très inégales, mais je balise le chemin avec la reprise de l'expression « il faisait route vers Jérusalem », très vite suivie d'une annonce de la Passion. Vous l'avez en 9,51, là, tout de suite. Et en 11,51, c'est la sagesse de Dieu qui parle. Jésus fait parler la sagesse de Dieu qui dit « J'enverrai des prophètes et des apôtres et ils en tueront ». Le verbe « tuer » va revenir sans arrêt. En 13,22, il traversait, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Aussitôt après, en 34, Jésus se lamente sur Jérusalem en disant à la ville « Jérusalem, toi qui tues les prophètes ». Et qu'il est lapide. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants sous mes ailes, comme la couvée, etc. Et tu n'as pas voulu. Chapitre 17. Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem. Et là, on a deux annonces successives, claires, de la Passion, qui sont rapportées au Fils de l'homme. Jésus le rapporte au Fils de l'homme, il faut qu'il souffre beaucoup, etc. Il sera livré aux païens et ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. En 1928, enfin, il faisait route en montant vers Jérusalem et là, on aboutit au Mont des Oliviers. Voilà comment je baliserai cette grande montée et maintenant, je donne juste quelques éléments. Cette montée, c'est essentiellement des enseignements aux disciples sur la venue du règne de Dieu. Et au fur et à mesure de la montée, il apparaît que c'est Jésus lui-même qui est le règne de Dieu, et que déjà le règne de Dieu est là au milieu de vous. On traduit parfois « il est en vous », mais je crois qu'il faut vraiment traduire « le règne de Dieu est au milieu de vous ». Et ce règne de Dieu qu'il fait advenir, il va enseigner aux disciples comment le vivre. Alors il y a d'abord un enseignement sur la mission, un enseignement sur la mission qui consiste à se faire proche et à accueillir. Et là, je m'appuie sur le chapitre 10 en mettant finalement en vis-à-vis deux scènes, une parabole, le bon samaritain, et un accueil de Jésus chez Marthe et Marie. Dans le bon samaritain, Le prochain, c'est celui dont on s'approche. Et ce prochain dont on s'approche peut avoir les traits du crucifié, en tout cas du martyrisé. Chez Marthe et Marie, on reste chez soi, puisqu'elles sont chez elles, ces dames, et elles accueillent celui qui vient, et c'est Jésus qui entre. Donc il y a deux façons finalement de faire mission, se faire proche en chemin, mission itinérante, de celui qui a besoin qu'on s'occupe de lui.
Ah, on n'entend plus.
Ou accueillir chez soi celui qui entre et dans lequel on peut toujours reconnaître. N'entendez plus?
Non, ça, c'est coupé. Ça coupe. Et l'image est fixe.
On n'entend plus.
On a perdu Roselyne.
Oui.
Coucou oui. Roselyne, revenez parmi nous.
On n'entend plus Roselyne. On n'entend plus. C'est,
Roselyne, c'est... où es-tu?
Coucou.
Les cheveux.
Ah, on voit Chantal de oh. Corbière en grand.
Oh. Ouais. Roselyne.
Bon. On voit une Dominique qui fume, on voit une Bénédicte qui regarde.
Vous voulez la joindre, il faut l'appeler sur son portable.
Ah, ben, okay.
Je l'appelle.
Je lui ai mis un petit mot sur son sur discussion. Ah,
là. Je l'appelle.
Oui.
Bon. Roselyne. Alors. Ah. Bon, elle a arrêté son appel.
Je le vois parmi vous de l'autre, le SIF à tout le monde. Non.
Roselyne, personne ne t'entend.
Elle est déconnectée.
J'espère que la situation va se résoudre. J'en profite pour passer un message. Dès que la situation sera résolue, j'espère, et qu'on aura reconnecté avec Roselyne, ce serait important vraiment qu'on écoute que tout le monde coupe les micros, parce que sinon, ça fait quand même pas mal de bruit, de perturbation, voilà, de petits messages. Voilà, sans doute les gens qui sont derrière ne s'en rendent pas compte, mais c'est un peu gênant. Donc, merci d'y penser.
Est-ce qu'elle a un 01, Roselyne? Il faut peut-être l'appeler sur son 01.
Oui, elle a un 01.
Il faut l'appeler sur son 01, moi je ne l'ai pas. Ah voilà, elle doit être sur son 01.
Bon, est-ce que vous voyez Roselyne?
Non.
Non.
Elle est
non.
Non. En train de téléphoner.
On voit Roselyne, mais on ne l'entend pas.
On la voit en petite icône, quoi.
Moi, je ne la vois pas.
Ah, ben zut, alors.
Moi, je la vois. Tout à l'heure, mais pas maintenant.
Je la vois bien.
On la voit téléphoner, mais elle est perdue au milieu.
Oui, on la voit téléphoner, c'est tout. Oui.
Eh bien, moi, je ne la vois pas.
Je la vois pas.
C'est tout.
Ah, ben zut, alors.
Non, il y a trois pages d'icônes. Il faut les faire défouler.
Oui, il faut les faire défiler. Hein. Il faut les faire défiler. Vous avez des petites flèches. Bon.
Donc, vous voyez Roselyne? Il faut faire des.
Oui, oui, on la
voit. Ah oui.
Oui, on voit Roselyne, on te voit.
C'est bon, Roselyne. Roselyne.
Vas-y, vas-y.
Roselyne, c'est bon.
C'est bon.
T'entends?
Non, on entend mal. Très
non,
mal.
On n'entend pas.
Roselyne, c'est bon.
Attends. Ah, mais elle a coupé son micro.
Roselyne,
Roselyne, ton micro.
Attends, Roselyne, est-ce que tu peux... Ton micro est coupé.
Si, on t'entend.
C'est très mal, très loin.
On t'entend mal, mais on t'entend. Si, t'entends
tu... Oui, c'est ça.
Ton micro paraît coupé.
Voilà, le micro est allumé.
Ça y est, tu m'entends?
Ça y est.
C'est bon.
Alors, on va essayer de faire ça. Bon. Et est-ce que maintenant, l'écran partagé, vous le voyez?
Non.
Oui.
Non.
Ah, oui, non. Pas l'écran partagé du tout.
Non.
Moi, je le vois.
Non, vous voyez, on
là, vous
on ne voit que toi.
Non. Ah, ben, ça, il y a un problème. Donc, je vais arrêter le diaporama.
Oui.
Ah, voilà. On vous a en grand écran.
Oui, alors, je vais recommencer à partager l'écran. Voilà.
Oui, on voit.
Oui, mais là, il faut que j'aille le chercher maintenant. Alors, soyez patients. Je suis désolée, hein, je ne comprends pas pourquoi. Je vais rechercher mon document. Alors.
On connaît beaucoup d'endroits.
Ah ouais, je vais rechercher mon document. Attendez, il arrive. Voilà. Bon, maintenant, il est là. Voilà. Maintenant qu'il est là. Non, ça n'a pas d'importance.
On voit en grand écran.
Et le partager. Attendez. Voilà.
Ah, ça vient, ça vient.
Ça vient, ça vient.
C'est bon. Ça y est. C'est bon. C'est bon.
Mange tout.
C'est bon. Roselyne, c'est bon. C'est bon. Alors, voilà, ça y est.
Ça y est.
Oui, oui.
Tac.
Bon, maintenant que c'est bon, merci de couper les micros, tous les autres, s'il vous plaît.
Vous êtes à Jérusalem, là?
Oui.
On est chez Marthe et Marie.
On est chez
Marthe et Marie. Moi aussi, c'est bien, on va s'y retrouver. Je vais remettre l'enregistrement parce que je pense qu'il est parti.
Non, il y est.
Il y est. Bon, alors je ne remets rien. Et donc, j'étais donc dans la mission. L'annonce du règne, je redis que l'annonce du règne, c'est vraiment l'idée que le règne, c'est lui et c'est maintenant, la venue du Fils de l'homme comme l'éclair brille dans le ciel. Et en même temps, l'inquiétude, c'est toujours pareil chez Lucas, toujours l'inquiétude, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Pour préparer les disciples à la suite. Alors, mince, j'arrive pas à faire passer maintenant la diapo suivante. Bon, j'essayais. Suivante.
C'est bon.
Alors, dans le même ordre d'idée, dans cette grande montée à Jérusalem, vous avez une alternance de paraboles extrêmement frappante, avec des paraboles très dures, d'une exigence extrême, et des paraboles, au contraire, de l'extrême miséricorde. Or, les paraboles de l'exigence extrême, pour une bonne partie d'entre elles, pour l'essentiel, elle porte sur cette question de la richesse, qui est vraiment un des thèmes de l'évangile de Luc et de l'argent. Il y a vraiment un thème, c'est « on choisit Dieu ou mammon ». Je ne m'arrête qu'un instant pour vous montrer à quel point c'est important, c'est la parabole du riche et de Lazare, vous savez, le celui qui est à sa porte et qui est dans ses haillons et sur son tas d'ordures et qui voudrait bien participer au festin. La finale de la parabole est assez sidérante. Le riche brûle dans les flammes de l'enfer, le pauvre est dans le sein d'Abraham, et le riche demande à Abraham, par pitié, va prévenir mes frères, qu'au moins eux ne soient pas voués à ces tortures. Et Abraham lui répond en lui disant, « Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, quelqu'un pourrait bien ressusciter des morts, ils ne seraient pas convaincus. » Maintenant, vous faites le déplacement. Il est évident que lorsque Luc écrit cette parabole, ou la raconte, peu m'importe, on est dans des communautés chrétiennes qui croient que quelqu'un a ressuscité des morts. Or, quelqu'un a ressuscité des morts et ils n'ont pas été convaincus. Et ça fait 20 siècles et un peu plus que ça dure. C'est quand même assez fort comme parabole. Je vous laisse méditer ça. En face de ça, on a évidemment les paraboles de la miséricorde extrême, la pièce perdue, la drachme perdue et la brebis perdue, qui évidemment n'ont aucun moyen de revenir ni de manifester leur repentir. Le fils perdu dont le retour est plus qu'intéressé. Et
ça recommence.
C'est la parabole du père qui sort en quête de, en attendant, est à moi, qu'il a déjà tout.
Roselyne, momentanément, tu pourrais peut-être couper ta caméra parce qu'on ne t'entend pas. Et ça utilise de la bande passante.
Roselyne, ça s'est arrêté, hein. Roselyne.
Ça s'est à nouveau arrêté.
Oui, là, ça s'est arrêté. On ne t'entend plus. Voilà.
Il faudrait peut-être qu'on coupe tous nos caméras, non ? Ça ne va pas aider ?
Ça revient maintenant. Est-ce que ça revient maintenant ?
Oui.
Oui. Oui, ben c'est parce qu'on m'a fermé une porte.
Oui, ah.
Avec la pièce où il y avait le Wi-Fi, alors évidemment. Bon, ça y est. Ça va ?
Oui.
Pour revenir sur la parabole du père perdu, du fils perdu ?
Oui.
Oui, vous m'entendez ?
Oui. Oui.
Alors, cette parabole, moi, je m'arrête chaque fois.
Est-ce qu'il y a le partage d'écran ?
Hein ?
Tu n'as pas le partage d'écran ?
Tu ne l'as pas ? Vous n'avez pas le partage d'écran ?
Non, non, non. On ne l'a pas. Ouais.
Moi, je l'ai, par exemple.
Mais non, mais on n'a pas le tableau. Non, mais on n'a pas le tableau.
On ne voit pas le texte.
Alors, ah oui, d'accord, on n'a pas le texte. Ah oui, non. On n'a pas le texte. Ouais.
Vous n'avez pas le texte ?
Non.
Non. Non.
Pascal a raison, il y a un problème de bande passante, ça s'est affiché, donc on devrait effectivement tous couper nos caméras et nos micros. Ça facilitera.
Voilà, c'est fait.
Roselyne, ton micro est de nouveau coupé. Ton micro est coupé, Roselyne.
Roselyne, on te voit, mais ton micro, voilà, ça ne marche pas. Tu as coupé ton micro. Roselyne, ton micro est coupé. Roselyne. Voilà ton mari.
Vous m'entendez là ?
Oui !
Bon, alors on y revient. Bon, maintenant il faut que je retourne au partage d'écran.
Oui.
Voilà. Je suis désolée, hein. Il y a vraiment. Alors j'ai perdu le diaporama aussi. Donc je vais revenir sur le partage d'écran. Ben oui, mais j'y arrive pas. Non, non, ça c'est. Je n'ai pas mon partage d'écran là, non. Peut-être ta femme, tout à merde. Je me dis rester ici.
Mais c'est pas grave, on vous entend. Et puis voilà.
Moi, je trouve que c'est pas grave le partage d'écran. On a les feuilles, on a les feuilles.
Voilà.
On regardera après, Roselyne, c'est pas grave.
Voilà. C'est pas grave.
Non, c'est pas grave.
On a les mains et on vous entend. C'est
alors,
pas grave.
Oui, voilà. Voilà, ça y est.
Il va revenir.
C'est bon.
Voilà.
C'est bon, voilà. Oui, c'est bon. C'est parfait.
Pas tout à fait, mais enfin bon, il est trop gros. C'est pas le bon, peu importe.
C'est pas grave.
Alors, si vous m'entendez, je suis dans le Père. Je l'ai dit, il fallait se réjouir. Parce que ton fils était perdu, etc. Je me suis toujours un peu empaillée avec les théologiens qui disent il n'y a pas de nécessité en Dieu, là, Dieu est parfaitement libre, y a pas, on ne peut pas dire il fallait de Dieu. Moi, je leur réponds, mais écoutez, Luc, lui, il établit une nécessité en Dieu, et c'est la nécessité du cœur de Dieu, de la miséricorde, il fallait qu'il sorte. Voilà. Donc, je prétends qu'il y a une nécessité en Dieu qui est celle de la miséricorde et de l'amour. Voilà. Quoi qu'en disent les théologiens. Et je continue. Là, je quitte la grande section. Vous y arrivez à voir à peu près?
C'est beaucoup plus grand que l'écran. Mais...
Oui, mais ça grand. Ira, ça va, t'inquiète.
Non, c'est parce que c'est le mauvais. Je vais rechercher l'autre. Enfin bon, je quitte la grande section. On arrive, c'est la troisième partie, d'ailleurs je perds trop de temps, là je vous fais perdre trop de temps, au récit de la Passion. Alors, je suis désolée, mais vous n'allez travailler que le chapitre 22, au moins pour ce que j'ai proposé, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, ceux qui étaient là il y a 2 ans ont travaillé le chapitre 23, déjà. Les nouveaux vont dire et nous. Alors, comme je ne propose pas non plus le chapitre 24, ceux qui voudront, il y a une 6e semaine, juste avant les vacances de Noël, pourront travailler les chapitres 23 ou 24, 23 et 24, juste avant Noël. Ça marche? Voilà. Vous travaillerez 22, ça oui. 22, ça renoue très exactement avec le récit de la rencontre avec le diable au chapitre 4, puisque vous aviez Satan se retira ayant épuisé toute forme d'épreuve. Satan se retire au chapitre 22, vous avez Satan entra dans celui qu'on appelait Judas Iscariote. Et très vite après, Satan qui attendait l'occasion favorable, il est dit de Judas, il cherchait le moment favorable, c'est le même mot, pour le livrer. Ceci dit, la figure de Judas chez Luc est très peu, comment dirais-je, très peu chargée. Autant elle est chargée chez d'autres évangélistes, Matthieu et Jean, chez Jean c'est un voleur, etc. Chez Luc, elle est très peu chargée, il y a d'ailleurs un récit de la mort de Judas dans les Actes des Apôtres qui ne correspond pas à l'évangile de Matthieu, peu importe. Ce que Luc met en scène, ce n'est pas le personnage de Judas, c'est le combat de Jésus avec Satan. Voilà, c'est ça le problème. C'est là la pointe de récit de la Passion et évidemment une espèce de victoire par le pardon. Je corrobore ça en disant que dans le récit du dernier repas de Jésus, vous avez une parole. Alors, dans ce récit du dernier repas, il y a beaucoup de choses étranges. Il y a toute une série d'enseignements aux disciples sur qui est le plus grand, le serviteur, etc., qui, dans les évangiles de Matthieu et surtout chez Marc, sont tout à fait ailleurs. À nouveau, Luc arme le disciple pour ce qu'il va avoir à vivre, au maximum. C'est toujours un enseignement aux disciples. Or, Jésus il dit à Pierre, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Toi, lorsque tu seras retourné, affermis tes frères. » Ce verbe « retourner », qui veut dire au sens propre « retourner », se retourner, c'est aussi le verbe de la conversion. Et on a une allusion, un rappel très clair de ce verbe un peu plus loin, lorsque Pierre a trahi, lorsque Pierre a renié, et c'est propre à l'évangile de Luc, au moment où Jésus sort du prétoire, il regarde Pierre qui a renié. Il se retourne, et c'est Jésus qui se retourne, ce n'est pas Pierre qui va se retourner. Là, il lui dit, lorsque tu seras retourné, mais non, Pierre n'a même pas été capable. C'est Jésus qui se retourne, qui regarde Pierre, et Pierre se mit à pleurer. Voilà. Donc, je vous livre ça parce que je trouve que c'est très, très fort comme idée. Lorsque tu seras retourné, et même si tu ne te retournes pas, moi, je me retournerai vers toi. Vous travaillerez, et là, il faut travailler vraiment les synoptiques en parallèle parce que c'est nécessaire, au moins un petit peu, le récit du dernier repas de Jésus qui est très particulier chez Luc par rapport aux 2 autres, puisque vous y avez la mise en relief d'un double discours, le discours testamentaire, je ne mangerai plus avec vous et je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je vous retrouve dans le royaume, et de la parole de Jésus devenue déjà liturgique autour du pain et du vin. La tradition de Luc est la même que celle de Paul dans 1 Corinthiens 17 et elle diffère assez largement de celle de Marc et Matthieu. On parle souvent d'une tradition antiochienne. C'est la parole sur la coupe qui est assez différente. Il n'est pas dit « voici mon sang de l'Alliance », mais « cette coupe est la coupe de l'Alliance en mon sang ». Cette coupe est la coupe de l'Alliance en mon sang, vous regarderez ça. Et l'allusion qu'il y a derrière n'est moins au récit de l'Alliance de Moïse en Exode 24, comme dans Matthieu et Marc, que à l'Alliance nouvelle annoncée par Jérémie. Puisque c'est cette coupe, et ce pain, c'est la coupe de l'Alliance nouvelle en mon sang. Or, le mot Alliance nouvelle, c'est le mot qu'a donné notre Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, le seul endroit où apparaît l'expression l'Alliance nouvelle, c'est en Jérémie 31-31 ou 38-31 dans le grec, où il est dit « Je vais conclure avec eux une alliance nouvelle, elle ne sera pas comme, mais c'est une alliance qui transformera le cœur de l'homme, le rendra immédiatement complice avec ma volonté, j'écrirai ma loi au fond de leur cœur. » Voilà. Donc vous avez cette idée qu'on a là un moment, un don de soi pour la transformation du cœur humain par l'action de Dieu lui-même. Donc c'est un texte qu'il faut travailler. En même temps, et enfin, dans ce dernier repas, Jésus reprend la thématique déjà présente en 9,51 de la passion du serviteur, puisqu'il le cite expressément le texte d'Isaïe. Il cite le texte d'Isaïe, il a été compté parmi les impies. Et là, c'est le texte d'Isaïe 53, c'est-à-dire le moment où le serviteur, mis à mort, est contemplé par ceux qui l'ont plus ou moins maltraité, probablement même tué. J'insiste enfin, si vous avez encore un tout petit peu de temps, sur le caractère propre à Luc de le moment de combat et d'angoisse de Jésus au mont des Oliviers. Très différent aussi de chez Marc et chez Matthieu, il n'y a pas trois allers-retours, mais un seul. Il y a l'intervention de l'ange qui vient conforter Jésus, et là on est très proche d'Élie au désert, qui au bout de 40 jours se couche et veut mourir, et l'ange vient le conforter. Et on a un récit assez physique de combat intérieur, que Luc appelle une agonia. En grec, l'agonia, c'est le combat, et ça peut devenir le combat mortel, avec l'expression « il priait plus intensément et sa sueur comme des gouttes de sang tombées à terre ». Alors, les peintres en ont fait des gouttes réelles, mais c'est quand même l'idée qu'il y a un combat intérieur difficile, qui est l'acceptation, en fait, par Jésus du silence de Dieu, parce que le Père ne répond pas, et qui est peut-être, ça c'est une proposition que je fais, la découverte par Jésus, c'est très net, me semble-t-il, dans l'évangile de Luc, de la mort sur la croix, qui est atroce et humiliante. Parce que tout au long de la montée de Jérusalem, et tout au long déjà du printemps de Galilée, Jésus est présenté comme un prophète. Dans la montée à Jérusalem, on a le sentiment qu'il s'inscrit dans la série des grands prophètes d'Israël, dont il dit que Jérusalem les a lapidés. Et la tradition à son époque est qu'on lapidait les prophètes. Donc, il est possible que Jésus s'attendait à être rejeté, mais lapidé comme un prophète, et qu'il découvre que même cette dignité-là lui sera refusée. Il ne va même pas mourir comme un prophète, il va mourir comme un malpropre. Et donc, on a peut-être, dans cette scène du Mont des Oliviers chez Luc, ce moment où l'angoisse est extériorisée et forte, ce qui va permettre ensuite, dans le récit de la Passion, par opposition à l'évangile de Marc et Matthieu, et surtout Marc, où Jésus meurt lamentable et dans un cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», ce qui va permettre au contraire chez Luc une mort sereine. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Voilà, moi j'explique comme ça la différence lucanienne que je trouve très intéressante. Le récit de la Passion selon Luc, je dirais, il y a deux accents à souligner. Le premier, c'est qu'il s'agit essentiellement quand même d'une méditation sur le politique, sur le procès politique de Jésus, qui est très important chez Luc, avec un Pilate mis en question, chez les synoptiques, chez Jean aussi, la tendance, et la tendance chrétienne, sera de laver Pilate. Finalement, Pilate, c'est le gars qui a dit que Jésus était innocent, mais les grands prêtres l'ont forcé à. Bon. De fait, Luc entre là-dedans. Par trois fois, Pilate dit « Cet homme est innocent. Voulez-vous que je le libère ? Je ne retrouve rien qui mérite la mort. Bon. » Moyennant quoi, il s'entend quand même sur le dos de Jésus avec Hérode qui était jusque-là son ennemi et devient son ami, donc il en fait un bouc émissaire. Et moyennant quoi, après avoir largement affirmé l'innocence de Jésus, il le livre par peur du peuple et de la sédition. Donc, je ne sais pas si Pilate est innocenté chez Luc, mais en tout cas, il y a un doute fort sur sa lâcheté politique. Moi, je crois que Pilate est plutôt éreinté qu'autre chose dans l'évangile de Luc. Inversement, on a du côté de Jésus le thème très fortement marqué dans cet évangile, beaucoup plus que dans les autres, du pardon de Dieu. Avec, dans les trois paroles de Jésus, cette idée du pardon, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », et vous chercherez quel est l'antécédent du « il », c'est intéressant, qui représente ce « il » dans le récit. Au brigand qui, au fond, lui demande pardon, il lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, et vous chercherez, j'ai mis une petite liste dans la fin de la conférence, et aujourd'hui, de l'évangile de Luc, il y a tout un fil rouge, mais aujourd'hui, le règne, c'est aujourd'hui, la décision à prendre, elle est aujourd'hui, la foi à donner, elle est aujourd'hui. Et puis le Père, entre tes mains, je remets mon esprit, là encore avec deux mots essentiels qu'on peut lire tout au long de l'évangile, Père, puisque ça a commencé par Jésus aux affaires de son Père dans le temple de Jérusalem, et ici, Père, je remets mon esprit, et l'esprit, qui est aussi un fil rouge de l'évangile. Vous le voyez peut-être mal, c'est un des sept tableaux de Maria Shmakov. Cherchez Masha Shmakov sur Internet, les sept paroles de Jésus en croix. Elle fait des tableaux immenses. Et il y a, sur l'oratorio de Handel, les sept paroles de Jésus en croix, et celle-ci, évidemment, est la parole de la remise entre les mains du Père. Et je trouve c'est splendide. Dernière chose, chez Luc, le centurion romain qui est au pied de la croix ne dit pas vraiment cet homme était fils de Dieu. Il dit vraiment cet homme était juste, un juste ou le juste. Or, là encore, si vous lisez, surtout dans le texte grec, la prophétie d'Isaïe 53 sur le serviteur souffrant, ce serviteur prophète qui a été mis à mort, et que ceux qui l'ont maltraité contemplent, silencieux, allant à la mort, et tout d'un coup s'aperçoivent mais que ce n'est pas lui le coupable, c'est eux qui sont coupables, donc il y a une espèce de retournement de ceux qui le regardent. Il est dit à la fin par Dieu, « Il est juste mon serviteur, et il rendra juste les multitudes et se chargera de leurs fautes. » Je crois que c'est à ça que fait directement allusion la reconnaissance par le centurion, vraiment cet homme était juste ou était le juste. C'est lui le serviteur juste qui rend juste, réajuste à Dieu les multitudes et se charge de leurs fautes. Et d'ailleurs, à partir de Marc, mais plus nettement dans Luc, devant le crucifié qui vient de mourir, les foules reconnaissent leurs propres fautes, exactement comme dans le récit d'Isaïe. Et toutes les foules qui avaient accepté, assisté à ce spectacle, regardant ou contemplant ce qui avait eu lieu, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Il y a un pardon, une demande de pardon, et un pardon accordé aux foules. Pour finir, et il est temps que je finisse, vous devez en avoir assez, les récits de résurrection, ou plutôt les récits de pas de résurrection, j'ai mal dit, de Christophanie, d'apparition du ressuscité, sont des récits qui se situent à Jérusalem comme chez Jean, et non pas en Galilée comme chez Matthieu et Marc, et sont des récits qui disent en fait déjà la foi de l'Église. Voilà. Emmaüs doit se lire comme une catéchèse eucharistique, ils le reconnurent à la fraction du pain, à la fin de laquelle les disciples d'Emmaüs reviennent à Jérusalem, reconstituent le groupe, et reçoivent au fond la parole qui est déjà la première expression de la foi de l'Église, vraiment, le Seigneur est ressuscité et il s'est fait voir à Simon. Et Jésus va leur annoncer l'envoi de l'Esprit en leur disant ce qui sera repris dans les Actes des Apôtres, à commencer par Jérusalem, vous serez mes témoins, vous revêtirez la puissance de l'Esprit. Et dans un premier... Alors, je voulais vous montrer un des tableaux de Zurbaran, je ne sais pas si vous le voyez.
Oui.
Sur le Emmaüs. Je le trouve extraordinaire parce que le ressuscité au milieu s'en va dans le noir, il disparaît dans le noir et toute la lumière est centrée sur les mains et le pain. Et je termine en disant qu'on trouve chez Luc, dans l'Évangile, un premier récit d'ascension avec un Jésus qui bénit, un peu comme le grand prêtre, ça se commençait dans le temple de Jérusalem, ça se termine, il bénit en dehors évidemment du temple, à Béthanie. Il est le médiateur et on aura dans les Actes des Apôtres un autre récit d'ascension, après 40 jours, parce qu'il faut 40 jours pour, où Jésus est enlevé comme un prophète au ciel, comme Élie, et où il envoie ses disciples en mission, et en leur disant le programme des Actes des Apôtres à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et commence alors le temps de l'Esprit. Voilà.
Ça y est.
Moi, j'en ai fini.
Termine. Oh, j'en peux plus.
Avec une série de propositions que vous avez à travailler au bout de la conférence, les thèmes font des fils rouges à travers Luc.
Père,
le pardon originel, l'aujourd'hui et la présence de l'Esprit. Vous avez toutes les références tout au fond, tout au bout des feuilles que vous avez entre les mains. Voilà, vous devez en avoir assez parce que c'est 8h30. Quand même quelques questions et réactions, en m'excusant pour la technique.
J'ai une question que je me pose à peu près tout le temps quand je lis les évangiles. Quand vous dites que Luc a composé des paraboles, a ajouté quelque chose par rapport aux autres évangélistes, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il les a composées ex nihilo pour traduire sa pensée théologique ou est-ce qu'il les a trouvées quelque part et mises dans son évangile ?
D'où ça serait vient, sympa si on pouvait lui demander.
Pardon ?
Ce serait sympa si on pouvait lui demander.
Bah, j'ai Roselyne Dupont-Roc en face de moi, donc...
Ben oui, mais je ne suis pas Luc. Hein.
Ah, je sais non, malheureusement.
Mon idée à moi, qui est aussi celle de beaucoup, c'est que Luc dit tout dans son prologue. Il a enquêté, il a ramassé. On voit bien, Luc, c'est un drôle de gars. Hein. Il y a dans son évangile des phrases qui ne sont pas dans tous les manuscrits.
Ouais.
Donc, il y a deux textes des Actes des Apôtres. Il y a dans Jean le récit de la femme adultère qui n'est que dans la moitié de la traduction manuscrite et qui ressemble beaucoup au vocabulaire et à un texte de Luc. Donc, à mon avis, Luc, il a fait ou fait faire, et peut-être ça s'est fait sur plusieurs générations, un énorme travail de recensement et d'enquête. Et je pense qu'il a aussi travaillé à partir de là. Donc je dirais, si on peut dire quelque chose, c'est qu'il n'est certainement pas jamais parti de rien. Voilà, je ne pense pas qu'il soit jamais parti de rien. Mais qu'à partir de paroles, à partir de choses transmises, à partir de machin oral qui lui a été fait, il a pu bâtir, les autres aussi, hein, il a pu davantage développer, bâtir, etc.
D'accord, c'est très éclairant, merci beaucoup.
On a la même chose pour le discours sur le discours dans la plaine et le discours sur la montagne de Matthieu. Hein.
Tu as enquêté le plus, Luc.
Ouais.
C'est des constructions à partir de noyaux qui ne sont peut-être pas non plus simples, c'est peut-être multiples. Il y a probablement des témoignages différents qu'ils ont eus. Ils ont dû probablement, à mon avis aussi, rassembler des choses.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roselyne.
Voilà. Il y a d'autres remarques, questions ?
Non, on a. Elle s'est interrompue au milieu parce qu'elle a perdu sa...
Je n'entends pas.
Non, mais je ne pense pas que c'était pour toi le propos.
Bon, alors, peut-être que vous souhaitez tous aller dîner.
Oui.
Voilà. Donc, vous avez déjà joint votre animateur. Les gens qui sont avec Aliette Chambry auront des nouvelles demain. Et je vous souhaite d'abord un temps de Toussaint paisible et ensuite de bien travailler. Voilà.
Oui. Merci Roselyne.
Merci.
Excusez ces ennuis techniques que je ne comprends pas.
C'est pas grave.
Est-ce qu'on pourra avoir la présentation?
Merci Roselyne.
Est-ce qu'on pourra avoir la présentation?
Oui, oui, oui. Elle sera sur le site.
D'accord.
Elle sera sur le site du site.
Merci beaucoup Roselyne.
Merci beaucoup Roselyne.
Merci Roselyne et bonsoir à tout le monde.
Merci, bonne soirée.
Merci, bonsoir.